France Info.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, que ce soit à la radio ou sur le canal 27 de votre TNT. Les informés, 4 ou 5 personnalités qui viennent débattre, ce sera 4 ce soir, débattre de 4 ou 5 sujets. Ce sera 5 aujourd'hui, mais laissez-moi d'abord vous présenter ce plateau de choix que nous avons concocté pour vous. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Courrier International. Astrid de Villene, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique, Adrien Matou, bonjour à vous.
Bonjour.
Journaliste à Marianne et puis Thomas Marco, un petit nouveau. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Vous êtes communicant, fondateur de l'agence qui porte votre nom et associé du groupe Venise. Allez, au sommaire, ce soir, une fois n'est pas coutume, eh bien, nous allons parler de nous, des journalistes. La situation ne cesse de se tendre avec des contestataires, qu'ils portent des gilets jaunes ou non. On parlera notamment de cette vidéo qui est devenue virale, où notre confrère Jean-Michel Apathy est pris à partie par un homme. Nous reviendrons sur l'info de la soirée, le renvoi en correctionnel de François et Pénélope Fillon. Pour détournement de fonds publics, leur procès pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Nous évoquerons l'avenir du PS et de Ségolène Royal. Ce sont deux sujets de plus en plus différents. En tout cas, Ségolène Royal ne sera pas candidate aux élections européennes. Enfin, nous nous interrogerons sur cette volonté de Jean-Michel Blanquer de sanctionner peut-être financièrement les parents d'élèves violents. Vous nous direz si vous pensez que c'est une bonne idée. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Vous connaissez les règles, filou, il n'y en a pas. De la méfiance et du dégoût. Voilà ce qu'éprouve une majorité de Français vis-à-vis de la politique. C'est en tout cas ce qu'affirme le 10e baromètre annuel de la confiance du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, pour le Figaro. Des sentiments qui ont progressé de manière spectaculaire depuis un an. Vous allez en débattre, mais je vous propose d'écouter d'abord Bruno Cotterès, politologue, qui est le coordinateur de ce baromètre.
Nous n'avions jamais vu pour certains de nos indicateurs un tel niveau de défiance dans la politique, un tel sentiment de dégoût, de morosité, mais aussi de colère. L'an passé, nous avions observé sur quelques-uns de nos indicateurs un léger mieux, comme si l'élection d'Emmanuel Macron avait effectivement l'an dernier introduit, mais c'était très 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 timide, mais un tout léger mieux. Tout le terrain gagné l'an passé a été intégralement perdu. Donc, c'est un véritable gouffre auquel nous assistons. Lorsqu'on regarde certains de nos indicateurs, on est entre 70 et 80%. Le sentiment que les hommes politiques ne sont pas empathiques, qu'ils ne sont pas aux côtés des Français qui vivent dans un autre monde, c'est un sentiment extrêmement présent dans les données de cette enquête.
Astrid de Villene, comment s'explique à votre avis cette défiance assez hors norme des Français à l'égard de leurs représentants ?
Moi, ce qui me frappe, c'est que les baromètres du CEVIPOF, on les a de chaque année.
Ça fait dix ans,
on dit la défiance se creuse, les Français n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques, ils attendent plus. Et là, ce qui est vrai, c'est qu'avec la crise des gilets jaunes, évidemment, ça prend un sens bien plus important. Et enfin, on regarde finalement ce que dit le CEVIPOF. Et j'ai l'impression que chaque année, en fait, on
il y avait un léger mieux l'année dernière.
C'est vrai. Alors ça, c'est assez frappant. C'est-à-dire que ça montre aussi qu'Emmanuel Macron a aggravé cela avec cette année et évidemment avec ce mois de décembre, puisque l'enquête a été faite au mois de décembre.
Adrien Matou.
C'est paradoxal pour Emmanuel Macron parce qu'il a été élu sur deux choses, dont l'une a été plus scrutée que d'autres. Il a été élu sur la promesse de renouvellement au niveau des visages, mais à mon sens, en niveau politique, c'était pas vraiment un renouvellement, c'était plus une continuation radicalisée de ce qui se fait depuis 20 ans, en termes de néolibéralisme, de politique économique, de rapport à l'Union européenne, etc. Donc je pense que les gens se sont plus focalisés sur le renouveau des visages, mais que sur le fond, du coup, peut-être que la déception par rapport au fait que la politique est une continuation, elle est vive.
Quoique, en fait, les choses ne changent pas, quoi. Les règles sont les mêmes.
Mais si on regardait le programme, on n'aurait pas été aussi surpris que ça.
Thomas Marco, comment est-ce que vous lisez, vous, les résultats de ce baromètre?
Moi, je suis un peu en contrepoint exprès, hein, mais je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles.
Ah bon?
C'est curieux, ouais, il y a des bonnes nouvelles. 75% des Français pensent que la France est une république où tout le monde a le droit de s'exprimer comme il l'entend, même si ça déplaît à certaines communautés, donc il y a quand même des choses positives. 58% des Français ont confiance dans leur maire. Peut-être revenir sur ce point, parce que les collectivités locales, c'est un point important. 78% des Français ont confiance dans les hôpitaux, plus 2 points. Dans les PME, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise, plus 2 points. 75% ont confiance dans l'armée, Et 74% dans la police. Donc il y a quand même des choses intéressantes
oui, mais ce qui est
à lire dans ce baromètre.
Ce qui est étonnant, c'est finalement toutes les institutions en prennent pour leur grade, si vous me passez l'expression.
Oui, mais bon, alors je réagis à ce que vous vient de dire Adrien. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur la question de l'incarnation. Je pense qu'effectivement, moi au contraire, qu'Emmanuel Macron incarnait un renouvellement de la démocratie. Enfin, après, on peut regarder sous quel aspect, etc., etc. Bien sûr, rentrer dans le détail, mais il incarnait une forme de renouvellement de la démocratie. Il y a des têtes qui ont disparu, il y a
sur les visages, ouais,
les partis qui ont disparu. Etc. etc. Enfin, disparu. Voilà, il y a les corps intermédiaires qui voilà, se sont évanouis, qui tentent de réapparaître. Mais ce que l'on voit, c'est que aujourd'hui, 62% des Français pensent que le mouvement des Gilets jaunes représente le renouvellement de la démocratie. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on attendait de Macron, c'est les Gilets jaunes qui l'incarnent dans cette étude.
Éric Scholl, il y a des bonnes nouvelles dans cette étude.
Je suis pas sûr que l'intolérance, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intolérance dans les Gilets jaunes, fasse partie du renouvellement de la démocratie. La démocratie, c'est normalement synonyme de tolérance. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu le risque que l'on voit. Mais en même temps, les chiffres que l'on voit sur cette désaffection vis-à-vis des institutions, ils sont bien sûr français, mais on les retrouve. Il y a une étude qui a été faite l'été dernier par Pew. Pew, c'est un organisme américain qui a enquêté sur l'ensemble des pays européens. On voit à peu près le même type de tendance, c'est-à-dire le recul des valeurs traditionnelles démocratiques et une désaffection, une grande méfiance vis-à-vis de toutes les institutions. On le retrouve partout en Europe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des causes qui sont françaises, mais ça veut dire aussi dire qu'il y a un mouvement profond aujourd'hui dans nos sociétés industrialisées, démocratiques, de questionnement sur le fonctionnement des démocraties dites libérales.
Eh bien, on va continuer à débattre de ce questionnement, mais il est 20h10 sur France Info, et vous le savez, c'est l'heure de l'info. Emmanuel Grabet vient de nous rejoindre.
Elle se revendique gilet jaune. 18 personnes ont été mises en examen dans l'Hérault, soupçonnées d'avoir mis le feu à un bâtiment du groupe Vinci au péage de Bessan. C'était mi-décembre. Annonce ce soir du parquet de Béziers qui précise que 12 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Le retrait de Ségolène Royal invite au sursaut et appelle à l'union à gauche, communiqué cet après-midi du Parti Socialiste. À 4 mois maintenant des élections européennes, le PS se retrouve sans tête de liste. L'ancienne ministre a annoncé ce matin sur France Inter qu'elle renonçait, notamment à cause des refus de Benoît Hamon et d'Europe Écologie Légère les Verts de s'allier à une liste conduite par elle. Elle tentait d'embarquer pour Paris avec ses 4 enfants et 12 kilos de cocaïne dans ses bagages. Une mère de famille a été arrêtée il y a une semaine à l'aéroport de Cayenne en Guyane. La drogue était dissimulée dans des sachets de poudre alimentaire. Il pourrait s'agir d'une mule, une technique fréquemment utilisée pour faire passer la drogue des pays de production sud-américains vers la métropole. Un vote historique au Parlement de Macédoine. Les députés acceptent de nommer leur pays République de Macédoine du Nord. Il s'appelle pour le moment officiellement Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Ce nouveau nom doit désormais être entériné par les députés grecs. Ce serait la fin de 30 ans de litige entre les deux pays. Et puis le président du club de foot de Nice, Jean-Pierre River, va quitter son poste à la fin de la saison avec son directeur sportif. Tous deux mettent en avant des divergences avec les actionnaires chinois et américains du club.
France Info.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Et je me disais qu'on parlait pas suffisamment de Macédoine sur France Info, mais c'est pas de ça dont on débat ce soir. Quand on demande aux Français ce qu'ils éprouvent quand on leur parle de politique, ils répondent de la méfiance à 37%, puis du dégoût à 32%. Seuls 9% des Français admettent avoir de l'intérêt. Est-ce qu'il faut changer les politiques, ou est-ce qu'il faut changer la façon de faire la politique, Astrid de Villene?
Les politiques, ils ont été radicalement changés l'année dernière, quand même. Enfin, il y a bientôt 2 ans, en 2017, avec l'élection d'Emmanuel Macron et un Parlement totalement renouvelé, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années, des femmes, des personnalités qui faisaient autre chose de leur vie que de la politique, et ça n'a pas marché. Et pourtant, il y a eu des lois successives qui ont essayé d'améliorer ça. Il y a eu la loi sur la transparence par François Hollande, il y a eu des lois très récemment menées par François de Rugy pour supprimer certains avantages que les élus avaient, et ça ne suffit pas. Donc on arrive, à mon avis, à un point de rupture où on a beau faire des choses, on a beau dire, expliquer, mais en fait, les députés, ils n'ont pas d'avantages quand ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas tous ces privilèges qu'on pense avoir comme ça dans l'opinion publique, eh ben ça ne marche pas. Et là, je crois qu'on arrive à un moment, donc c'est peut-être le système ou des révolutions majeures qu'il faut entreprendre.
Adrien Matou, il faut changer la façon de faire de la politique ?
Ah, pas que la façon de faire de la politique, puisque, bah, comme le disait Astrid, les politiques en termes de visage,
ça a changé, voilà. Ça a valsé.
Je pense que ce qui est le ressort principal de cette désaffection, c'est quand même le décalage entre les déclarations et les actes. De Hollande, mon ennemi c'est la finance, au référendum de 2005, en passant par Chirac et la fracture sociale. Mais il y a aussi quand même, il faut se poser la question du fond de la politique, parce que j'insiste un petit peu sur ça, hein, mais Emmanuel Macron, en termes de fond, ne diffère pas de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy ou même de Jacques Chirac avant lui.
Mais qu'est-ce qu'il peut faire, quoi? Une présidence moins présidentielle, une démocratie plus participative?
Ça, c'est la manière de faire de la politique. Alors, ça peut être une solution, ouais, parce qu'on voit que le référendum d'initiative citoyenne, c'est une des principales demandes. C'est vrai que la verticalité qu'il a adoptée, c'est mal perçu, parce que sa politique est perçue comme brutale et peu à l'écoute. Mais par contre, je pense qu'il a un vrai problème, parce que sur le fond, si on regarde les revendications des Gilets jaunes, c'est un modèle de société complètement différent de ce que Emmanuel Macron a promis et de ce pourquoi il a été élu. Donc là, je pense qu'il y a une impasse pour lui.
Éric Chal?
Non, je pense qu'il y a un côté paradoxal et je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que en réalité, quand on regarde les chiffres en France, on s'aperçoit qu'il y a quand même 57% de la dépense publique aujourd'hui du PIB qui va dans la dépense publique. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit le sondage? Il dit bien que les Français gardent confiance dans les institutions, dans la santé, dans l'hôpital, dans la police. C'est-à-dire tous les endroits d'ailleurs où on fait de la dépense publique. Donc d'un justement côté, on soutient ces institutions, de l'autre, on met en cause ceux qui, au fond, les font fonctionner.
Et on veut payer moins d'impôts, hein, ça c'est...
Bah, c'est pas ceux qui les font fonctionner, hein, c'est ceux qui les démantèlent, pour le coup. Ouais. Et c'est pas Emmanuel Macron qui fait fonctionner l'hôpital ou qui fait fonctionner l'armée,
aujourd'hui, c'est lui qui réduit leur budget. Aujourd'hui, on a un niveau de dépenses publiques qui est de 57% du PIB. Alors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays où on sait redistribuer de l'argent. Vieux économiste aujourd'hui
sort
un article aujourd'hui pour expliquer d'ailleurs que la France redistribue plus, par exemple, que la Suède. On n'a pas ça en tête. On se dit
Que paradoxal. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent que la France est un des pays les plus égalitaires.
Enfin, la dépense publique n'est pas redistribution. Hein.
40 milliards par an pour les grandes entreprises.
Oui, moi je voudrais juste aborder, parce que on a peu de temps, donc juste aborder un sujet qui est par contre extrêmement inquiétant et tout à fait renversant. Quand on demande aux Français à quel territoire ils se sentent appartenir, l'Europe arrive en dernier avec 6%. 6%. Ils se sentent européens à 6%. C'est extrêmement...
Européens d'abord, hein, je crois, hein, oui, dans le sondage.
Ouais. Oui. Ouais. Je suis d'accord, mais on arrive à des chiffres quand même.
Non, mais là, vous pointez un vrai truc, c'est-à-dire l'Europe est assimilée en fait à la mondialisation. Et moi, je crois que fondamentalement, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est cette crainte de l'avenir. Et cette crainte de l'avenir, elle est notamment due à une peur, mais diffuse, sur la mondialisation. Capitalisme aujourd'hui et mondialisation et Internet et nouvelles technologies, ça fait peur. Et c'est cette crainte que l'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne connaît pas les métiers de demain. On a une inquiétude forte. C'est ça qui ressort aujourd'hui. La méfiance, le dégoût et la méfiance, ils viennent aussi de cette idée qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. On ne connaît pas la piste d'atterrissage pour les enfants, pour les futures générations.
Oui, le monde arrive à 11%. C'est-à-dire, quand on leur donne, ils se sentent plus proches du monde que de la planète, que 11%, ouais, que de l'Europe, 6%.
France, et en même temps, il y a un sondage qui est sorti en parallèle et qui dit que plus de 55% des Français s'intéressent aux élections européennes. Alors qu'on dit traditionnellement que c'est des élections qui n'intéressent personne. Je crois que là, les Français ont compris qu'il y avait un enjeu.
On peut s'intéresser aux élections européennes pour sans se sentir
européen. Mais pour reprendre aussi le sondage du Cevipof, ils disent, pour aller dans votre sens sur les bonnes nouvelles, 55% des Français mettent d'abord les élections, la démocratie, avant la manifestation pour se faire entendre. Donc tout ça, c'est quand même assez rassurant.
Les politiques ne sont pas les seuls à être frappés de défiance, les journalistes également, et vous le savez bien. Symbole peut-être, cette vidéo qui en dit peut-être relativement long. À la sortie de son bureau, notre confrère Jean-Michel Apathy a été interpellé par un homme qui se présente comme journaliste gilet jaune, qui a évidemment dégainé son smartphone pour filmer la scène. Regardez cet extrait, on en débat juste après.
Votre présupposé, c'est que je suis un menteur.
Oui.
Vous vous rendez compte des bases sur lesquelles on installe la discussion?
Écoutez,
vous m'abordez là dans la rue, je ne sais pas qui vous êtes. Vous me filmez.
Je suis journaliste gilet jaune.
Vous me filmez,
oui.
Voyez, vous me traitez de menteur,
oui. Et
on va discuter comme ça sereinement. Vous pensez que c'est très civilisé, ça?
Vous êtes du côté des puissants. Et ça, vous pouvez pas le nier quand on prend toutes vos chroniques bout à bout.
Je ne peux rien nier de vos accusations. Je ne peux rien nier
de vos
accusations. Mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas nier.
Parce que les gilets jaunes sont du côté de la vérité, monsieur.
Parce que tout ce que vous dites...
Et vous, vous êtes du côté du mensonge et de la manipulation.
Parce que tout ce que vous dites est vrai.
Voilà.
Et tout ce que je dis, moi, est faux. Donc comment est-ce que je peux nier quelque chose? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes, vous, un citoyen? Et moi, qu'est-ce que je suis, selon votre raisonnement, une merde au service du capital?
Non, vous êtes un millionnaire.
Voilà, alors je ne vais pas me tourner vers les journalistes, mais d'abord vers le communicant.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Marcot?
Bon, je m'y attendais. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai en face de moi des journalistes. Donc
non, mais attendez, allez-y. Vous savez, d'abord, on a l'habitude et deuxièmement, vous êtes là pour ça.
Effectivement, la façon dont ce personnage, soi-disant journaliste gilet jaune, s'adresse à Jean-Michel Apathy est parfaitement condamnable. La manière de faire. Et puis, j'ai appris tout à l'heure que, effectivement, il a fait d'autres interviews, il s'est trouvé dans d'autres situations, il a mis d'autres personnes en difficulté, etc., etc. Bon, c'est quand même assez inquiétant.
Jean-Michel Apathy, d'ailleurs, pas tellement en difficulté.
Il s'en sort plutôt pas mal. Il n'y a pas de bagarre. Il continue à converser, etc. Bon, moi, je dois vous l'avouer, ici sur cette antenne, il m'arrive même assez régulièrement le matin d'écouter Jean-Michel Apathy sur une antenne bleue.
Une concurrente est néanmoins amie, j'imagine. Jean-Michel Apathy.
Bon, je l'écoute. Alors la première question que ça pose, c'est le journalisme d'opinion. Bon, le journalisme d'opinion n'est pas un journalisme effectivement d'investigation, n'est pas un journalisme qui révèle des faits, qui s'intéresse aux faits, mais qui au contraire commente l'actualité. Et donc forcément, Apathy prend parti. C'est la chronique qu'il fait.
Ça veut dire quoi? Attendez, Marco, vous tortillez là.
Vous dites que finalement
les accusations de ce journaliste gilet jaune.
Non, Olivier fait des raccourcis.
Je vous pose la question.
Je dis juste qu'il sait la différence entre ce journalisme d'investigation et le journalisme d'opinion. Quand il dit les gilets jaunes posent un grave problème à la démocratie, il s'engage quand même. Quand il dit qu'entre un leader des gilets jaunes et Marine Le Pen, il n'y a plus l'épaisseur d'un papier de cigarette, c'est ce qu'il a dit ce matin à 8h12, forcément, ça peut énerver et jeter de l'huile sur le feu. Quand il dit ce sont des propos qu'on entend jamais dans une démocratie quand Maxime, Nicole,
Non,
il est 20h20, on laisse passer l'info et on se retrouve juste après. Emmanuel Grabet.
La perspective d'un procès pour les époux Fillon se précise. Le parquet national financier requiert ce soir leur renvoi en correctionnel. Charge maintenant au juge Serge Tournaire de suivre ou pas cette réquisition. L'ancien candidat à la présidentielle de 2017 est soupçonné d'avoir octroyé un emploi fictif à son épouse à l'Assemblée nationale. Ils sont tous deux mis en examen dans cette affaire depuis mars 2017. Une centaine de personnes en grève de la faim dans deux centres de rétention d'Île-de-France, au Mesnil-Amelot et à Vincennes. C'est la CIMAD, une association qui intervient dans ces centres, qui l'annonce. Tous dénoncent les violences policières, la durée de détention jusqu'à 3 mois et les conditions d'hygiène dans ces centres. Éleveurs porcins, chasseurs et responsables de la gestion des forêts attendus lundi au ministère de l'Agriculture, nouvelle réunion sur la peste porcine africaine. Il faut renforcer le dispositif de lutte et de prévention après la découverte il y a 2 jours en Belgique de 2 nouveaux cas tout près de la frontière avec la France. En République démocratique du Congo, la commission électorale appelle les Nations Unies à soutenir le candidat déclaré élu, Félix Tshisekedi, et met en garde contre une annulation du scrutin, déclaration alors que l'opposant Martin Fayoulou revendique aujourd'hui la victoire. Avec 61% des voix, il annonce qu'il saisit la Cour constitutionnelle. Et puis dans moins de 10 minutes, désormais à 20h30, c'est l'entrée en piste des Français au Mondial de hand en Allemagne. Les Bleus affrontent le Brésil ce soir pour leur premier match de poule.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Ça fait déjà 20 minutes que les informés s'affrontent sur ce plateau. On débat évidemment de cette vidéo qu'on vient de voir de Jean-Michel Apathy, qui a des prises de position fortes, contestables, nous disait Thomas Marcot. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'il soit contesté à Street de Vilaine?
Non, mais Jean-Michel Apathy a le droit de s'exprimer comme tout un chacun dans ce pays. Après, c'est les méthodes. Là, la méthode, elle ne va pas. C'est-à-dire que cette personne se dit journaliste, mais nous, les journalistes, en fait, quand on va interviewer quelqu'un, on ne l'agresse pas, on le suit pas, on le force pas de répondre et surtout, on ne dit pas de mensonge parce qu'il accuse Jean-Michel Apathy de mensonge, mais en fait, lui-même en dit un en disant qu'il habite dans le 16e, etc. Je trouve que c'est vraiment une image qui fait assez peur, en fait. Et d'ailleurs, Jean-Michel Apathy l'a dit d'ailleurs sur un plateau. Il a dit, j'ai l'impression d'être dans une guerre civile. C'est pas des méthodes. méthode acceptable. Tout le monde a le droit de s'exprimer, ce journaliste a le droit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en fait.
Adrien Matou ?
Oui, bah évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la méthode est odieuse et que dans certains cas, la critique des médias prend des formes odieuses. C'est le cas avec, avec ce soi-disant journaliste gilet jaune, c'est le cas avec des confrères qui sont agressés pendant les manifestations, etc. Après, attention, il ne faut pas non plus, interdire toute critique des médias. Il ne faut pas qu'on soit trop corporatiste et que dès que quelqu'un critique les médias, on dise « Ah, attention, la démocratie est menacée, etc. » Il y a une vraie critique des médias légitime à faire, selon moi, notamment en regard du traitement des gilets jaunes. Faut juste pas qu'elle prenne ces formes-là, parce que sinon ça va la décrédibiliser, en fait.
Parce que tout le monde, vous disiez que tout le monde peut s'exprimer en démocratie, mais effectivement, quand on est journaliste, on dispose quand même d'une tribune qui est...
Disproportionnée.
Enfin, par rapport à...
oui, par rapport à celle des...
Par rapport à celle du citoyen lambda, Éric Scholl.
Oui, enfin, il faut quand même faire très attention, parce que quand on commence à critiquer comme ça, et ce qu'on voit depuis maintenant un an ou un an et demi les médias, on sait où ça va, c'est-à-dire on remet en cause complètement le lien de confiance qui peut exister entre les médias et les citoyens, et au fond,
Mais est-ce qu'il n'est pas affaibli, ce lien de confiance?
Mais bien sûr qu'il est affaibli, mais en même temps, regardons les choses. Moi, à Courrier International, je passe mon temps à ausculter la presse étrangère. Je vois les endroits où la presse ne marche pas, où il n'y en a pas, où il y a de la censure, où il n'y a pas de journaux, où on ne peut pas s'exprimer. Mais en France, on peut quand même s'exprimer. Monsieur Apathy, il a le droit de s'exprimer. D'autres personnes ont le droit de s'exprimer. On l'oublie un peu vite. On est en train de nous dire les médias ne fonctionnent pas en France. Si, ils fonctionnent. Prenez les baromètres de Reporters sans frontières chaque année. La France est certainement pas en tête, d'accord, mais elle est quand même relativement à un bon niveau en termes de liberté d'expression. Ne l'oublions pas. Regardons ce qui se passe ailleurs dans des pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Ça, je trouve ça insupportable, ces attaques qui sont faites maintenant depuis un an et demi, vis-à-vis des médias. Je suis d'accord pour qu'on fasse nos propres critiques au sein des rédactions, et je pense que c'est un travail qui est fait régulièrement. Les façons dont en ce moment les médias sont attaqués sont inadmissibles. C'est de l'intolérance.
Thomas Marco, est-ce que les réseaux sociaux changent pas tout finalement? Parce que cette liberté d'expression, elle s'exerce de plus en plus sur Internet, et ces réseaux sociaux sont une véritable ubérisation des médias traditionnels.
Vous avez de la concurrence. Voilà, vous avez de la concurrence qui perturbe le climat dans lequel vous travaillez précédemment, il y a encore quelques années. Mais je ne rejoins pas tout à fait mon voisin sur la question. C'est la démocratie, elle n'est pas forcément liée à une sorte de robinet d'eau tiède qui doit couler entre un public, entre une audience, entre une population. Non, c'est moi qui en parle. Ah oui. un public, une audience, des téléspectateurs, des lecteurs, etc., et des médias. Il y a de nombreuses histoires de la démocratie, que ce soit à la fin du 19e siècle ou au cours du 20e siècle, où il y a eu on n'a pas besoin de reparler de la lutte des médias et du public sur Dreyfus ou les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards par exemple. Il y a eu des moments extrêmement virulents où les médias étaient très engagés, où le public était très engagé, où les publics prenaient
parti. C'est un bon signe pour la démocratie finalement.
Ah, mais moi je pense que c'est la démocratie. C'est la démocratie. Après, les méthodes
des choses qui sont dites sur ces réseaux, excusez-moi, qui sont extrêmement graves. Il y a des journalistes qui se font agresser.
Et je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est parfaitement inadmissible.
Pour moi, c'est pas une concurrence, les réseaux sociaux, etc. Les médias font leur travail, les réseaux sociaux en font un autre qui est très intéressant et qui est un lieu de débat que peut-être on devrait plus avoir, nous aussi. Moi, je suis pour, en effet, une remise en question collective de notre travail. Peut-être qu'on n'a pas fait assez de reportages, peut-être que cette crise des gilets jaunes, on l'a pas vue, peut-être que les gens là qui s'expriment tous les jours, tous les samedis sur les ronds-points, on n'est pas assez allé les voir. Ça, moi, je pense qu'on l'a pas assez fait. Mais ça ne justifie en rien ce qui se passe dans le pays en ce moment. Bah,
je voudrais qu'on se comprenne bien. Je ne justifie en rien. Rien du tout. Je veux juste sortir un petit peu d'un. Voilà, je suis face à quatre journalistes, forcément.
Adrien Matou, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi sur les façons de travailler qu'ont les journalistes aujourd'hui?
Oui, parce que je pense que de toute façon, on sera tous d'accord pour dire que les agressions de journalistes, c'est pas bien.
Oui,
en fait.
Ça c'est pas bien.
Donc,
ça, c'est
pas bien. Moi, je pense qu'il faut vite sortir de l'aspect. Voilà, on est un peu sur la défensive. Mais je pense qu'il y a des choses légitimes dans la critique des médias. Par exemple, on nous a beaucoup reproché le côté pensée unique. Moi, je trouve qu'il y a une part de vérité. Par exemple, quand je regarde.
Attendez, pensée unique, c'est toujours la pensée de l'autre, hein.
Non, pas forcément. Exemple, sur les gilets jaunes.
Vous, à Marianne, parfois, vous êtes un peu pensée unique.
Ça dépend. On pense tous la même chose, peut-être. Voilà. Et encore.
Ouais. Il y a du pluralisme dans la presse française.
Oui, mais par exemple, moi, quand je me branche sur les chaînes d'infos en continu pour m'informer sur les gilets jaunes, des fois, je tombe sur des débats, Et je trouve que c'est quand même, c'est assez, tout le monde pense un petit peu la même chose.
Ouais, et puis de temps en temps, on tombe sur des débats qui sont formidables.
Où les gens pensent pas pareil.
Le cas, ce soir, pour vous informer. Vous savez ce qu'on va faire? On va laisser passer la météo, l'info, on boit un verre d'eau et on se retrouve dans 5 petites minutes.
Sur Dell.fr, les bonnes affaires reprennent pour bien commencer l'année. Profitez des soldes sur Dell.fr sur une sélection des meilleurs PC Pro Dell dotés de processeurs Intel Core 8e génération. Les soldes pour votre PME, c'est maintenant sur Dell.fr ou appelez nos conseillers Dell.
Les Invisibles, un film de Louis-Julien Petit avec France Info. Suite à une décision municipale, le centre d'accueil pour femmes SDF L'Envol va fermer.
On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on ne peut plus.
Il ne reste que 3 mois au travail social pour réinsérer les femmes dont elles s'occupent.
Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider.
Falsification, piston, mensonge, tout est permis.
Bah, j'ai travaillé dans une agence immobilière.
T'as fait ça pendant combien de temps?
Un jour.
Bah, c'est 24 heures, hein. C'est, ouais. Temps, c'est beaucoup.
Les Invisibles, avec Audrey Lamy, Corinne Maziero et Noémie Lovski. Actuellement au cinéma, en partenariat avec France Info.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Jean-Pierre Hameau.
Le gris sera la couleur du ciel demain matin sur une grande partie du pays. Attention aux bandes brouillard parfois épais présents au lever du jour. À noter encore de faibles chutes de neige de la Montagne Noire au Massif Central et du Jura aux Vosges. En revanche, le soleil va encore briller généreusement autour du Golfe du Lion et de la basse vallée du Rhône à la région PACA, sans oublier l'île de Beauté. Même type de temps l'après-midi, généralement gris et humide avec en prime de la pluie au nord de la Loire. Prévoyez quelques flocons sur les reliefs du nord-est. Le soleil va résister du Languedoc-Roussillon à la région PACA. Mistral et Tramontane vont encore souffler jusqu'à 90 km par heure. Et puis côté température, les minimales seront généralement comprises entre 1 et 5 degrés. Les maximales seront en hausse, comptez 4 à 6 dans l'est et le nord-est. Prévoyez 7 à 11 degrés ailleurs et jusqu'à 13 degrés au bord de la Méditerranée.
20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info, c'est avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Combien seront-ils? La contestation va-t-elle retrouver sa vigueur d'avant les fêtes? À la veille d'un nouveau samedi d'action des Gilets jaunes, les autorités redoutent une mobilisation plus forte que la semaine précédente et plus radicale surtout, alors que de moins en moins de Français semblent soutenir le mouvement de ces Gilets jaunes, comme le montrait hier une étude Odoxa pour France Info. Un Français sur deux, 52%, souhaite la poursuite du mouvement contre près de 65% il y a un mois. Il faut dire que les violences de cette dernière semaine expliquent en partie ce recul. Ainsi, à Forbach en Moselle, beaucoup d'habitants soutiennent encore les Gilets jaunes, mais voudraient voir le mouvement évoluer vers autre chose. Cécile Soulet.
Nicolas est souvent sur la route pour son travail. Il pose des alarmes pour une société de sécurité. Il aimerait bien que les Gilets jaunes lèvent le pied.
On est en voiture, on fait de l'intervention. Quand il y a des barrages, c'est souvent compliqué. Faut peut-être continuer, mais modérément. Ou...
Malgré tout, Nicolas tient à préciser qu'il soutient toujours les Gilets jaunes. Comme cette autre forbachoise, Déborah, un soutien sur le fond, mais pas sur la forme.
J'ai beaucoup d'amis qui subissent. Moins de travail. Pour certains, ils ont dû se mettre au chômage technique.
Vous souhaiteriez que le mouvement cesse?
Non, parce qu'il faut que les choses soient dites. Il faut juste que les choses soient faites différemment.
Devant le Cora de Forbach, d'autres habitants plus impatients aimeraient en revanche voir la fin de cette mobilisation.
Là, ils savent plus ce qu'ils veulent. Ils ont eu des choses. Certes, c'est peut-être pas forcément suffisant, mais il faut attendre que les choses se mettent en place et puis peut-être faire une halte.
Un peu plus loin, cette gilet jaune de Forbach France affirme que le mouvement a déjà changé de stratégie pour moins gêner la population.
Je pense qu'ils ont dû remarquer ces derniers temps que c'est justement ce qu'on fait. On évite de bloquer le Cora. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont dans la même situation que nous, qui viennent ici. Et là, maintenant, c'est les anciennes symboliques qu'il faut bloquer, hein, les députés, les impôts. Oui, j'ai entendu la dame quand elle disait il est temps que le mouvement s'arrête, mais à l'heure actuelle, il n'est pas prêt de s'arrêter.
Dans leur campement, installé à côté sur un rond-point, les Gilets jaunes ont ouvert jeudi une boîte aux lettres pour recevoir à la fois des mots d'encouragement, mais aussi des critiques. On est prêt à les entendre, disent-ils.
Un reportage de Cécile Soulet, les Gilets jaunes de Forbach qui vont à nouveau se mobiliser ce samedi, mais gardent leur opération secrète pour le moment. Quant à la préfète du Cher, elle interdit tout rassemblement de Gilets jaunes dans le centre-ville de Bourges. La ville a été choisie comme lieu de rassemblement Rassemblement national par un collectif surnommé la France en colère en raison de son emplacement géographique au centre de l'Hexagone. Emmanuel Macron publiera lundi sa lettre aux Français. Le chef de l'État va notamment y délimiter les termes du grand débat national sur lequel il compte pour éteindre la colère des Gilets jaunes et qui démarre le lendemain, le mardi. Emmanuel Macron qui appelle les Français ce soir à se saisir de cette très grande opportunité que représente selon lui le débat. Le parquet national financier requiert le renvoi en correctionnel de François Fillon et de son épouse Pénélope dans l'affaire des emplois présumés fictifs de cette dernière et des enfants du couple. La décision revient désormais au juge d'instruction. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue. Olivier Delagarde.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie d'Éric Scholl, de Courrier International, d'Astrid de Villene, journaliste politique, Adrien Matou, journaliste à Marianne, et Thomas Marco, communicant. C'est l'information de ce début de soirée. Le parquet national financier requiert le renvoi en correctionnel de François et Pénélope Fillon pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et complicité. Vous allez en débattre, mais je vous propose d'écouter d'abord notre confrère Fabrice Lhomme qui a suivi l'affaire pour Le Monde.
Je pense que c'était en quelque sorte le dernier espoir pour François Fillon d'échapper à un procès. Les soupçons qui avaient été émis dès le départ sur l'emploi de Pénélope Fillon, pour l'essentiel, ont été confortés par l'enquête, en fait. Et qu'elle n'a pas réussi à justifier, et lui non plus, le fait qu'elle ait été payée autant, si longtemps, successivement par son époux, puis par le suppléant de son époux, alors qu'en contrepartie, il n'y avait pas grand-chose, tout simplement. Ça veut dire que le parquet valide totalement l'instruction du juge, et la dernière étape, ce sera maintenant le renvoi effectif devant le tribunal.
Adrien Matou, on parlait il y a quelques minutes de la place des journalistes dans la société. Ce renvoi, ça valide l'enquête des journalistes pendant la campagne présidentielle?
Oui, a priori. Après, on attendra de voir les décisions absolument. Pour le procès. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de la défiance envers les politiques. On se demandait un petit peu pourquoi elle était si grande. Bon, je pense que ça en fait directement partie. Un homme politique qui, en plus, avait basé son image entièrement sur la probité et sur l'honnêteté. En contraste déjà avec Nicolas Sarkozy, on voit très bien que les charges desquelles il est accusé sont extrêmement lourdes.
Astrid de Villene.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on l'avait presque oublié, cette affaire Fillon.
Vous avez oublié, vous ?
Quasiment, et là, ça revient. Donc, ce qui m'étonne toujours, c'est la lenteur de la justice. Mais en effet, on aura un procès à la fin de l'année. Ça va relancer... on aura enfin les conclusions judiciaires.
On aura peut-être un procès, d'ailleurs, à la fin de l'année.
Oui, a priori. C'est important, je pense, parce que c'était une affaire qui a quand même bousculé le paysage politique il y a un an et demi.
Éric Scholl ?
Oui, mais quand même, au départ, c'est une enquête du canard enchaîné, donc c'est quand même rendons justice à la presse, qui sait aussi sortir des affaires, et c'est pas la seule que la presse a sortie. Après, le traitement médiatique, je pense, est différent, mais regardons bien qu'au départ, c'est quand même une enquête journalistique. Donc quand on dit que la presse fait mal son travail, il faut quand même voir à quel point elle sait
débusquer. Oui, c'est Thomas Marco qui dit ça, d'ailleurs.
Je n'ai de l'avis, on se comprend pas.
Il n'a pas dit ça.
C'est pas vous, mais de manière générale, il faut s'en rendre compte. Deuxièmement, c'est vrai qu'on va rentrer dans une période, c'est pas le seul procès qui va y avoir. Il va y avoir aussi d'autres procès qui vont d'ailleurs toucher la droite, puisque il y a quand même toutes les affaires aussi qui touchent Nicolas Sarkozy et qui vont arriver à un moment ou à un autre devant la justice. Et donc, on va rentrer fin 2019, 2020, 2021 dans des années où l'agenda judiciaire...
Il faut s'attendre à un baromètre du Cevipof dont on parlait au début des informés, encore plus grave pour les politiques.
Oui, et finalement, ça a déjà été traité, j'allais dire, médiatiquement. Mais vous voyez qu'effectivement, il y a le moment où les faits se produisent. Donc en l'occurrence, là, on remonte aux années de 2002 jusqu'à 2013 en ce qui concerne, ou 2012 en ce qui concerne François Fillon. Les procès vont avoir lieu en 2019-2020. Pour Nicolas Sarkozy, ça va être pareil. Donc si vous voulez, jusqu'en 2020-21-22, on va avoir ces procès. Ça va pas être bon du tout, d'ailleurs, pour la droite. Enfin, en tout cas, pour ces personnages qui incarnent finalement la droite peut-être du passé.
Thomas Marco, le procès médiatique de François Fillon, il a déjà eu lieu, finalement. Il faut attendre quelques chose de ce procès, donc qui pourrait et devrait intervenir d'ici la fin de l'année ?
Moi, je suis assez surpris que cette information arrive avant l'acte 9 des Gilets jaunes. Bon, c'est un concours de circonstances, sans doute.
On dit plus acte 9, on dit 9e journée de mobilisation. 9e journée de mobilisation, c'est pas du théâtre,
si vous préférez, voilà. Olivier, pas de souci. Je trouve que ça arrive à un moment assez terrible pour notre pays, parce que c'est une information encore dévastatrice. Évidemment, on regarde cette enquête qu'on a commentée tout à l'heure et on voit le lien forcément qui se fait directement. Je rejoins Astrid, 18 mois d'enquête pour finalement nous révéler ce que tout le monde savait déjà, d'autant que Marc Ladret-Lacharrière, de Lacharrière, avait déjà demandé un plaidé coupable. Donc ça veut dire que, bon, il reconnaissait la réalité d'une partie des faits qui sont reprochés au couple Fillon. Donc, finalement, c'est sans surprise, mais ça arrive encore à un très très mauvais moment sur le plan social, sociétal. Voilà.
Astrid de Villene, si François Fillon n'avait pas, si cette histoire n'avait pas éclaté, François Fillon serait à l'Élysée aujourd'hui ?
Moi, je pense pas. Beaucoup de gens disent ça, mais je pense que François Fillon, avant même cette affaire, il commençait déjà à décrocher dans l'opinion parce que il avait sorti les histoires de la sécurité sociale. Moi, je me souviens, j'avais couvert beaucoup de marchés dans des villes de droite, dans des quartiers de droite, les gens commençaient vraiment à s'inquiéter. Ils disaient comment on va soigner notre rhume, etc. Et moi, je l'ai jamais vu président de la République. C'est une opinion, mais je pense.
Il n'est pas arrivé très loin au premier tour.
Je pense qu'Emmanuel Macron a décelé à l'époque quelque chose dans l'opinion que là, il semble avoir perdu, mais qu'il a fait une campagne qui très vite s'est avéré.
Admettons qu'il ait été élu, qu'il soit à l'Élysée. Est-ce que la crise des Gilets jaunes aurait éclaté, Adrien Matou ?
Oui, je pense, et avant, en fait. Parce qu'il y aurait déjà eu le mécontentement immense. Moi, je me rappelle, à cette époque, il était candidat, on se disait, mais comment il gouvernera s'il est président ? Parce qu'il aurait bénéficié de l'immunité présidentielle, alors que les charges pesant sur lui sont accablantes.
Non, mais nonobstant.
Et sur la politique, vous voulez dire. Sur la politique menée, c'est la politique de Macron, mais en plus radicale. Donc, je pense que oui.
Éric Scholl ?
Je fais pas de politique fiction.
On fait que ça, de la politique fiction.
Il est sorti, il n'a pas été. D'une certaine façon, il a déjà payé le prix politique. Là, il va payer le prix de la justice, mais le prix politique, il l'a payé. Il est sorti, il ne reviendra pas en politique. Il l'a déjà dit. Mais je suis incapable de savoir ce qui serait passé, puisque les événements n'ont pas été décidés de cette façon-ci.
Thomas Marco ?
Oui, moi, je suis d'accord avec Adrien. Je pense que là, ça aurait été assez sévère. Vu ce qu'on constate depuis des semaines.
Est-ce que peut-être il n'aurait pas béni... On reproche beaucoup à Emmanuel Macron finalement d'avoir un petit peu trompé l'opinion, de ne pas avoir dévoilé son jeu. En tout cas, François Fillon, lui, son programme était sévère, mais en tout cas connu.
Mais il aurait quand même été élu sur une base majoritaire. Minoritaire. C'est-à-dire qu'avec notre système politique, on peut être élu avec seulement 20% au premier tour.
Donc qui que vous soyez, de toute manière, voilà. Avec notre système, vous êtes au premier tour à 20% et au deuxième tour à un peu plus de 50. On va continuer à parler de politique dans les informés. Vous restez avec nous. Il est 20h40, c'est l'heure de l'info avec Emmanuel Gravet.
Deux nouvelles inculpations ce matin et une plainte au pénal à son encontre déposée par Nissan. L'avenir judiciaire de Carlos Ghosn au Japon s'assombrit encore davantage. Le parquet de Tokyo indique aujourd'hui que le toujours PDG de Renault encourt jusqu'à 15 ans de prison pour les soupçons de malversation qui pèsent sur lui. Dans le même temps, c'est une information France Bleu Normandie. Renault va verser une prime exceptionnelle à ses salariés. C'est la fameuse prime annoncée par Emmanuel Macron pour calmer la colère des Gilets jaunes. 40 000 employés du groupe vont recevoir entre 300 et 500 euros. Même chose chez ArcelorMittal, 12 000 salariés recevront fin février une prime de 500 euros, information de France Bleu Loire-Océan. Vers une grève massive dans l'éducation nationale le 24 janvier, c'est en tout cas le souhait de plusieurs organisations syndicales. Grève contre les réformes du bac, du lycée et de Parcoursup notamment. Pour préparer cette journée de grève, ces syndicats appellent à une journée d'action jeudi prochain. Aux États-Unis, 800 000 fonctionnaires fédéraux n'ont pas touché leur salaire aujourd'hui. C'est la conséquence du shutdown, la fermeture d'une partie des administrations pour cause de blocage du budget au Congrès. Cette paralysie deviendra, à minuit, heure de Washington, la plus longue de l'histoire du pays, sauf si démocrates et républicains parviennent d'ici là à un accord, ce qui est peu probable. Et puis le coup d'envoi, dans 5 minutes du match entre Lyon, 3e de Ligue 1 de football, et Reims, c'est le début aujourd'hui de la 20e journée du championnat. Le match entre Caen et Lille, dauphin du PSG, touche à sa fin.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Je vous ai promis qu'on allait continuer à débattre de politique. Venons-en au cas Ségolène Royal. L'ancienne candidate à la présidentielle reprend sa liberté. C'est en tout cas comme ça qu'elle a présenté les choses. Elle ne sera pas candidate aux élections européennes. Elle s'était dite prête à figurer sur une liste, mais elle estime aujourd'hui que les conditions ne sont pas remplies, le rassemblement de la gauche n'ayant pas été possible. Alors, vous allez évidemment me dire ce que vous en pensez, mais écoutons d'abord ensemble Ségolène Royal.
J'avais posé comme condition pour répondre à l'aimable pression de mes amis de pouvoir structurer et créer une convergence et un rassemblement des écologistes, de la gauche, des démocrates, de la société civile également.
Et
ces conditions ne sont pas remplies puisqu'un certain nombre de partenaires ont refusé. Et par conséquent, je reprends ma liberté de ne pas être candidate.
Voilà, Ségolène Royal qui était l'invitée ce matin de nos confrères de France Inter. Adrien Matou, c'est une surprise, ça montre quoi? Que la gauche est plus désunie que jamais?
Alors la gauche, oui, mais ça c'est pas un scoop, entre guillemets. C'est surtout le signe, à mon avis, que le PS ne peut plus jouer le rôle d'entraînement qu'il avait par le passé, puisque Ségolène Royal ne peut plus prendre la tête d'une liste PS et exiger des écolos. Donc j'inclus Benoît Hamon dedans, Benoît Hamon, Yannick Jadot, qui se mettent derrière elle. Donc c'est à la fois un symptôme du fait que le PS est faible, mais ça va aussi amplifier la faiblesse du PS.
Astrid de Villene.
Ségolène Royal, elle n'a pas pu y aller, surtout parce que Yannick Jadot lui a opposé une fin de non-recevoir. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que Yannick Jadot, qui n'est pas très connu des Français, qui a la tête, enfin, qui veut se présenter sous les couleurs de Europe Écologie Verts, qui ne va pas non plus très bien comme parti.
Il avait gagné la primaire des Verts avant de se désister pour Benoît Hamon. Bon,
d'ailleurs,
c'est pas un sens politique, on va dire, exceptionnel sur ce coup-là.
Et en fait, finalement, cette présidentielle et ces divisions à gauche qui essayent de se réunir mais qui n'y arrivent pas, elle est en train de se refaire en ce moment pour les européennes. On va peut-être avoir 6 listes à gauche pour un électorat qui ne fait peut-être même pas 20%. Donc c'est voilà, elle est en train de se suicider la gauche française en ce moment. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, Marine Le Pen est en train de rallier des gens des Républicains. Elle fait un grand meeting à la Mutualité dimanche où elle va présenter sa liste. Et la gauche est en éclat. Donc en effet, il y a un vrai souci pour la gauche en France aujourd'hui.
Thomas Marcoux, c'est au communicant que je m'adresse. Ségolène Royal, elle représente encore quelque chose aujourd'hui dans la société française?
Elle tente de représenter quelque chose, sous divers aspects, sous divers uniformes, sous divers casquettes. Bon, il y a un mot que vous n'avez pas repris dans l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, c'est elle dit c'est assez désolant. Moi, je trouve que ce qui est assez désolant, c'est qu'elle s'aperçoive qu'en politique, après sa carrière, il y a encore des problèmes d'ego. Enfin, je veux dire, elle a vécu ces problèmes d'ego pendant des années et des années, donc le fait de s'en apercevoir aujourd'hui me paraît
un petit peu... Si vous n'avez pas d'ego, vous ne faites pas de politique.
Oui, mais bon, c'est quand même assez surprenant
comme le journalisme, ça,
qu'elle
c'est
ait
bon.
Pu penser que ce projet d'alliance de multiples organisations et partis politiques puisse aboutir à quelque chose. C'est quand même une personne qui fait de la politique, qui a été élue la première fois en 1988. Enfin, c'est député, c'est quand même très ancien. Je veux dire, c'est quelqu'un qui devrait savoir que ces questions d'ego, elles finissent toujours par... Mais je pense que la vraie raison, c'est le score. Vous êtes d'accord, Adrien? Je vois que vous opinez du chef.
Le score
qu'elle aurait fait. Et je pense qu'elle ne l'assume pas. Voilà, c'est tout.
Une élection n'est jamais faite avant. Éric Scholl.
Oui. Ségolène Royal, elle a apporté beaucoup à la politique. Franchement, en 2007, elle a fait une campagne où on l'a découverte. Elle avait des idées nouvelles.
Participative.
Bien sûr, mais plus que ça, elle a apporté des idées nouvelles. Elle a remué le PS, etc. Elle a tenté, elle a vu une petite lumière. Elle s'est dit, je peux me précipiter pour revenir parce que elle est évidemment, elle adore ça, la politique. Donc elle a envie de revenir. Elle va se dire, c'est terminé. Donc elle pensait qu'elle pouvait revenir. Et effectivement, elle constate quoi? Que la gauche n'est pas en état actuellement. La gauche doit.
La gauche en veut pas, surtout. Astrid Devine, elle pèse encore quelque chose, Ségolène Royal?
Oui, moi je suis pas totalement d'accord, parce que je crois qu'il faut pas l'enterrer si vite, Ségolène Royal. Je sais pas si vous avez vu son livre, j'ai pas vraiment vu les succès, si c'est un succès en librairie, mais en tout cas, il est intéressant. Elle a une position très moderne sur le climat, très moderne sur le sexisme, etc. C'est une femme politique d'expérience, et je crois que ce qu'on vit en ce moment montre que...
Adrien Matou lève les yeux au ciel,
Moi, je crois qu'il faut pas l'enterrer, mais on verra, On verra ce que dit l'avenir, mais quand on lit son livre, on a l'impression qu'elle se prépare pour 2022. Et elle est pas la seule. Mais on peut pas à savoir en politique comment les choses évoluent.
On n'est jamais mort en politique,
en plus,
disait Alain Juppé. Regardez-moi.
En ce moment, voilà,
Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a, quand même une divergence de fonds politiques hein, qui empêche cette alliance. C'est-à-dire que si Génération et Les Verts ne s'allient pas avec Ségolène Royal, c'est pour des raisons politiciennes, certes, mais aussi parce qu'ils estiment qu'elle est comptable du quinquennat de François Hollande, qui, selon leur analyse, était un reniement des valeurs de la gauche. Donc il y a aussi un petit peu, peut-être, de fonds politiques derrière cette non-alliance.
Est-ce que ça veut dire que les écologistes pourraient prendre le leadership de la gauche en France après des années de domination du Parti Socialiste, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était le Parti Communiste, et puis François Mitterrand avait réussi à mettre la main sur la gauche. Est-ce qu'on est aujourd'hui à ce type de transition, Thomas Marco?
Bon, si on regarde le succès de la pétition, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a un fond... Bon, c'est une pétition.
La pétition pour le climat, vous voulez
oui,
dire.
Oui, la pétition pour le climat. Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser.
Oui, non, 2 millions de signataires.
Un peu plus même, maintenant. Ils veulent... l'objectif est de 3 millions, etc., etc. Ça peut monter même au-delà.
Mais signer une pétition, c'est facile.
Mais c'est ce que j'allais dire. C'est facile de signer une pétition. Mais il y a sans doute une conscience, conscience autour des questions de climat et d'environnement qui est très, très aiguisée maintenant, de plus en plus aiguisée dans l'opinion publique. Donc pourquoi pas maintenant, après, sous quelle forme?
Éric, c'est ça la question. Moi, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, avec tous ces débordements, et on en a parlé, de l'intolérance, etc., a néanmoins remis au cœur de l'actualité un sujet qui est réel, c'est la question sociale, et malheureusement...
Et il a évacué un petit peu la question environnementale, non?
Non, pas totalement.
Pas totalement, parce que les deux sont conciliables. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas les réponses. La gauche, pour le moment, n'a pas encore réinventé son appareil pour répondre à ces nouveaux, à cette question sociale, celle qui se pose aujourd'hui, je veux dire, en 2019, 2020, 2021, pas celle d'il y a 20 ans.
Astrid de Villene.
Oui, Yannick Jadot parie sur le dernier résultat en fait, des dernières élections européennes où la Europe Écologie Les Verts avait fait un score très important pour cette formation. Bah,
ils font toujours des très bons scores. Enfin,
c'est leur élection.
Des bons scores aux européennes.
Donc il se dit, je vais y arriver. Il y a une vraie quand même, aujourd'hui les Français sont quand même très sensibles à cette question-là. Ils tentent sa chance. Le problème, c'est qu'avec 5 autres listes, ou peut-être plus, ça va être très très compliqué pour eux. Donc, à mon avis, là où je suis pas totalement d'accord, c'est que pour une des élections européennes, ils pourraient tous peut-être trouver une sorte de programme commun, quelques éléments où ils pourraient se mettre d'accord. Là, de voir la différence pour un électeur de gauche entre Benoît Hamon, Olivier Faure, la France Insoumise, c'est un peu différent, mais c'est vrai que ça va complètement...
Ça manque un peu plus de tête d'affiche, quoi.
Alors, peut-être en plus, oui.
Ils ont pas intérêt à faire des accords, en fait, parce que Yannick Jadot, par exemple. Est-ce que vous le voyez annoncer à ses militants? Oui, alors on va se mettre derrière le PS. Alors du coup, on va devoir
En plus, après le triomphe de la présidentielle, effectivement, je pense que ça va être compliqué.
Le PS, en étant à 7% dans les sondages, là, c'est vraiment de la politique politicienne. Mais ne peut pas se permettre, ne peut pas entraîner les autres partis derrière lui, parce que les écolos, avant, ils étaient toujours avec le PS, parce que c'était le seul moyen pour eux d'avoir des places. Aujourd'hui, ils vont sacrifier des places et ils vont pas en gagner beaucoup plus en s'alliant avec le PS.
Ça veut dire que quoi? Que ces petits partis de gauche, comme on les appelait à l'époque de la suprématie du Parti Socialiste, aujourd'hui, ils sont contents quand même de, quelque part, un peu de se venger de ce grand frère qui a pris trop de place pendant trop longtemps?
Je sais pas s'ils sont contents, mais en tout cas, ils vont plus se mettre sous son aile. Puisqu'ils sont à égalité dans les sondages.
C'est le grand perdant, c'est sûr.
C'est le grand perdant.
Pour l'instant, du retrait de Ségolène Royal, oui.
Allez, 20h50 sur France Info. Encore de la politique, juste après l'info, Emmanuel Grabet.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, l'IGPN, la police des polices, a reçu 200 signalements de violences policières présumées. Elle a aussi été saisie par la justice de 78 dossiers, chiffres livrés à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Des rassemblements annoncés notamment à Paris et à Bourges demain. Le faux docteur Jean-Claude Roman va devoir attendre le 31 janvier pour savoir si sa demande de libération conditionnelle est acceptée. Le tribunal de Châteauroux devait statuer aujourd'hui, mais de nouveaux éléments viennent de lui être transmis par l'administration pénitentiaire. Jean-Claude Roman est derrière les barreaux depuis 1993 pour avoir assassiné plusieurs membres de sa famille après avoir mené une double vie pendant des années. Après le Valsartan, le laboratoire Arrow Générique procède aujourd'hui au rappel de plusieurs lots de médicaments à base d'irbesartan, lui aussi préconisé dans le traitement de l'hypertension. Les lots rappelés contiennent, selon l'agence du médicament, des substances classées comme cancérogènes probables en trop grande quantité. À quelques jours d'un vote crucial du Parlement britannique sur le Brexit, la panique gagne le Royaume-Uni. Une
Une sortie de l'Europe sans accord serait absolument ingérable, c'est ce que dit aujourd'hui la principale organisation patronale. De son côté, la police appelle les commerçants à engager des vigiles supplémentaires pour faire face aux clients affolés qui voudraient faire des stocks en urgence. Et puis, On Trace, c'est le titre du nouvel hymne des Enfoirés. Ils fêtent cette année la 30e édition de leur concert au profit des Restos du Cœur. Hymne composé par le chanteur Vianney et dévoilé sur France Bleu en exclusivité ce matin.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et nous aussi, on trace parce que c'est notre dernier thème ce soir. Faut-il frapper au portefeuille les parents d'élèves violents? C'est l'une des propositions avancées par une commission chargée de trouver des solutions à ces problèmes de violence à l'école. Donc, suspendre les allocations familiales. Je vais vous demander ce que vous en pensez, mais on va d'abord écouter ensemble le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, lui, est à fond pour cette mesure.
Il peut y avoir à la fois des difficultés familiales, et dans ce cas, il faut aider la famille, accompagner, dialoguer. Il peut y avoir aussi des cas où la famille n'a pas été en accompagnement de son enfant et parfois même a pu soutenir certaines violences. Ça arrive malheureusement.
Thomas Marcos, c'est une bonne idée ?
Oui, c'est une bonne idée, mais enfin c'est une vieille idée.
C'est pas incompatible, hein, il peut y avoir des bonnes vieilles idées.
Oui, mais bon, c'est une vieille idée qui est arrivée en 2006 avec le contrat de responsabilité parentale du gouvernement Villepin. Qui donnait la possibilité aux présidents de conseils départementaux de couper les allocations familiales aux parents dont les enfants sont souvent absents avec des absences caractérisées, répétitives, etc., etc., ou qui troublent le fonctionnement des établissements. Bon, après, il y a eu cette loi Ciotti en 2010 sur la réduction des allocations familiales pour les questions d'absentéisme caractérisé, qui a été annulée retirée par la
François
gauche,
Hollande.
Exactement. Donc, c'est quand même des choses qui ont déjà été testées, qui ont été vues. C'est une des 32 propositions d'un pré-rapport qui a été remis aujourd'hui. Bon, ça, voilà. Le succès, quand même, était, par le passé, assez mitigé. 619 suspensions pour environ 80 000 signalements d'absentéisme. Ouais, 619 suspensions. Bon, enfin, c'est quand même très, très, très marginal, très faible. Alors, si on peut faire un bilan d'une application rigoureuse dans le futur.
Vous nous avez dit que c'était une bonne idée, Adrien Matou. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, moi, je pense que c'est une très vieille et une très mauvaise idée.
Voilà, ce qui n'est pas incompatible non plus, hein, vous savez.
Ah bon, on est d'accord.
Parce que, sur la vieille. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur la vieillesse, parce que c'est, en fait, ça date d'une ordonnance de 1959.
Qui
subordonnait le versement des allocations familiales à l'assiduité. Alors, c'était pas sur la violence, c'était sur l'assiduité. Ah oui, ouais. Mais voilà, et c'est une mesure qui avait été abandonnée en 2004 par Jean-Pierre Raffarin parce qu'elle était inefficace. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors, est-ce que vous pensez que des parents qui manifestement encouragent dans sa violence leur enfant vont cesser de le faire parce qu'elle ne touche plus les allocations familiales?
Je ne sais pas.
Moi, je suis assez pessimiste. Et en outre, c'est une mesure qui est spécifiquement contre les familles pauvres puisque, quand on regarde dans le détail, les allocations familiales dépendent en partie du revenu des parents. En plus, elles ne s'adressent pas aux gens qui ont un seul enfant, ce qui fait 3 millions de familles quand même. Bref, en gros, l'idée, c'est que les enfants violents sont des enfants de pauvres et qu'ils vont arrêter d'encourager leurs enfants à être violents si on leur coupe les quelques centaines d'euros qui leur aident à boucler les fins de mois et à élever leurs enfants. Je pense que la logique est plus idéologique que pragmatique pour le coup.
Astrid de Villene.
Non, mais surtout, ça tombe à un très mauvais moment parce que en plein débat, enfin, le débat n'a même
pas
commencé.
En ce moment, tout tombe mal, hein,
oui,
de toute manière. Hein,
c'est vrai. Mais cette mesure, en effet, a quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire, penser qu'on va réussir à réduire la violence d'un enfant en enlevant encore plus des allocations à ses parents, c'est
l'idée,
assez.
L'idée, c'est peut-être de réveiller les parents en leur disant, attendez, il faut que vous vous occupiez de vos enfants.
Mais
quoi.
Ça a montré quand même.
C'est ça la philosophie, hein.
Oui, oui, mais ça a déjà montré ses limites. Éric Ciotti avait essayé de le faire en effet avec l'absentéisme, elle a été retoquée et cette mesure qui est annoncée par le gouvernement, enfin en tout cas par Jean-Michel Blanquer, a été très très mal perçue des députés de la majorité.
Alors ils sont, c'est ça qui est intéressant,
ils sont
très divisés. Hein.
Oui, enfin divisés, enfin surtout c'est très rare qu'on les entende aussi nombreux monter au créneau pour dénoncer franchement une mesure qu'ils n'approuvent pas.
Et on règle rarement les difficultés en ajoutant des difficultés, a déclaré notamment Hugues Granson, le vice-président de la République En Marche.
Et donc il faudrait quand même peut-être faire attention pour l'exécutif à ne pas commencer à constituer des frondeurs. Je ne dis pas qu'on y est, mais attention, parce que là quand même avoir s'il n'a même plus les députés qui le soutiennent, je crois que ça va commencer à faire beaucoup beaucoup de difficultés.
Éric Scholz, je vous sens extrêmement dubitatif sur cette affaire. Vous avez une opinion?
Oui, je pense que c'est pas une bonne idée. sur le fond, l'idée de responsabiliser les parents est une bonne idée, mais ça ne passe pas nécessairement par la sanction. Ce que je veux dire, c'est que l'école française, a très longtemps mis les parents dehors. Ouais. En fait, les parents ne s'occupaient pas de l'école. L'idée de se dire, on peut aussi, les parents sont des acteurs aussi de l'éducation au sein de l'école, c'est une bonne idée. Mais ça doit passer par des choses qui ne sont pas nécessairement la sanction. La responsabilisation ne passe pas uniquement par la punition. Au passage, on parlait d'absentéisme, les Allemands, ils sont très forts là-dessus. Eux, ils s'embarrassent
pas. Les Allemands, là-dessus, voilà.
Et en Bavière, ils mettent des amendes aux élèves qui ne sont pas en cours.
En Grande-Bretagne également, au bout de 10 retards, vous avez 70 euros, l'équivalent de 70 euros d'amende.
La responsabilisation ne doit pas nécessairement passer par une politique du bâton, elle doit passer aussi par une implication plus forte. Ça veut dire, c'est sans doute, mais réellement, on a toujours mis les parents un peu en dehors des programmes, de l'idée de comprendre comment fonctionne l'éducation.
Adrien Matou,
si je peux me permettre, si on pense que les parents encouragent leur enfant à la violence, il y a déjà des dispositifs qui existent. L'éducation nationale peut faire un signalement et on sépare l'enfant de ses parents. Parce que si le parent encourage son enfant à être violent, a priori, c'est quand même pas très épanouissant. Et si on parle aux gens sur le terrain, ce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont en place, des psychologues, des assistantes qui peuvent régler ce genre de problème, mais que ça manque de moyens pour le faire.
Adrien Matou, on peut tout se permettre, mais pas de dépasser l'horaire. Eh oui, l'horaire des informés, c'est terminé. Les unes de vos hebdomadaires, messieurs Éric Scholl, à la une de Courrier International cette semaine.
Eh bien, on revient sur Michel Houellebecq en regardant le regard de la presse étrangère sur lui. Et puis, on s'intéresse aux déchets. Vous savez que depuis un an, la Chine a refusé d'être la poubelle du monde. Et maintenant, eh bien, tous les déchets de nos pays
industrialisés,
il faut les emmener quelque part. Alors, où vont-ils ?
Alors, on a très peur que le débat ouvert par le gouvernement soit très rabougri, le grand débat. Donc, nous, on l'ouvre sur tous les sujets.
Allez, on tire notre révérence. Mais vous n'êtes pas laissé tout seul. L'info continue sur France Info.